France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Cette émission est préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Fanny Richer et Barthélémy Gaillard. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Élise Leu. C'est le dernier volet de notre série consacrée à la vision toute trumpienne de la paix dans sa quête pour le prix Nobel. Une paix en Trump-l'œil. Après l'Ukraine, le Moyen-Orient et la République démocratique du Congo, où Donald Trump déploie sa grande passion pacificatrice, la Corée du Nord, où il espère un retour de flamme avec son grand ami.
J'ai une excellente relation avec Kim Jong-un. J'espère que cela restera ainsi. Je pense que ce sera le cas. J'ai une très bonne relation avec lui. Je le comprends. J'ai passé beaucoup de temps libre avec lui, à parler de choses dont nous ne sommes probablement pas censés parler. Et vous savez, je m'entends très bien avec lui.
La seule nation encore divisée au monde est la péninsule coréenne. Je voudrais vous demander d'y jouer un rôle dans l'instauration de la paix. J'attends donc avec impatience votre rencontre avec Kim Jong-un et la construction d'une Trump World Tower en Corée du Nord afin que je puisse y jouer au golf et que vous puissiez véritablement jouer un rôle de faiseur de paix historique au niveau mondial.
Nous avons l'État qui nous est le plus hostile, la République de Corée, dans notre voisinage immédiat. Et la stabilité de la situation régionale est en train de s'envoler en raison de l'escalade des sanctions militaires menées par les États-Unis. La guerre détruira terriblement l'entité appelée République de Corée et mettra fin à son existence. Elle infligera également une défaite écrasante et inimaginable aux États-Unis.
Si Donald Trump se vante d'être la personne qui connaît le mieux au monde le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, à part peut-être sa sœur, on entend bien le décalage entre un président états-unien s'appliquant à prendre une voix enjouée pour inviter Kim Jong-un à se revoir et celui-ci qui s'applique, on dirait, à prendre une voix mortifiée. En réalité, ce discours du président nord-coréen date de 2019, l'année de sa dernière rencontre avec son homologue américain. Depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump et ses appels du pied, silence radio, les invitations que la Maison-Blanche envoie à Pyongyang sont restées lettres mortes. C'est à l'occasion d'une visite à Washington fin août du président de la Corée du Sud, Lee Jae-myung, que le président américain s'est déclaré prêt à relancer le dialogue avec Kim Jong-un, à la fois pour rapprocher les deux Corées et pour dénucléariser le Nord. Mais au-delà de la passion entre les deux dirigeants qui s'est considérablement attiédie, le contexte mondial a aussi beaucoup changé entre le premier et le second mandat de Donald Trump. Bonjour Pascal Daïès-Burgeon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission au CNRS, ancien diplomate français à Séoul. Vous avez écrit La dynastie rouge, Corée du Nord 1945-2015, paru chez Perrin et traduit d'ailleurs en coréen. Bonjour Sébastien Faletti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Séoul, où vous êtes correspondant du Figaro, puisque vous êtes journaliste Sébastien Faletti, et vous aviez suivi d'ailleurs lors du premier mandat de Donald Trump la façon dont lui et Kim Jong-un avaient établi des relations sur l'air de « je t'aime moi non plus », dans la manière dont le président des États-Unis en parle aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression, Sébastien Faletti, qu'il a déjà oublié que c'est lui qui avait claqué la porte lors du sommet de Hanoï en 2019?
En tout cas, tous les signaux montrent que Donald Trump, avant même d'être réélu à la présidence, souhaite relancer, créer ce qu'on pourrait appeler une saison 2 à sa bromance avec Kim Jong-un. Il a indiqué durant sa campagne qu'il a gardé une très bonne relation avec Kim Jong-un, qu'il souhaitait le revoir. Et puis, depuis qu'il est de retour aux affaires, il régulièrement envoie des signaux en sa direction. Les derniers qu'on vient d'entendre en compagnie du président sud-coréen, où il a donné quand même pas mal d'informations sur le fait qu'il souhaitait le revoir. Et en parlant de sa relation même personnelle avec le dirigeant nord-coréen. Donc il y a vraiment un appétit de la part de Donald Trump. Le problème, c'est plutôt en face désormais, dans cette nouvelle ère, on a l'impression que c'est Pyongyang qui est dans la position de traîner les pieds, qui pour le moment rejette les appels du pied de la première puissance mondiale.
Avec le souvenir très certainement et peut-être une certaine rancune gardée par Kim Jong-un du fait que Donald Trump avait quand même quitté la table des négociations en pleine discussion autour de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. On avait parlé à l'époque d'une humiliation pour le président nord-coréen. Donald Trump était assez influencé par son ancien conseiller John Bolton qui avait peur de faire trop de concessions. Kim Jong-un donc lui a priori n'a pas oublié, Pascal Daïès-Burgeon, n'a pas oublié ce moment-là, cet événement-là.
Je ne suis pas sûr que ce soit une telle humiliation. C'est surtout que ça n'a plus aucun intérêt pour la Corée du Nord, qui désormais a noué des liens très étroits avec la Russie, a renforcé ses liens avec la Chine et qui obtient de ces deux grandes puissances ce qu'il espérait éventuellement obtenir des États-Unis, qu'il n'a pas obtenu. Donc voilà, je pense que Kim Jong-un a tourné la page. Alors peut-être fera-t-il quelques réponses, mais en l'état, ça ne présente plus d'intérêt pour lui de se rapprocher des États-Unis. Il sait que le président n'est là que pour encore 3 ans et que la situation est maintenant plutôt celle d'une guerre froide. Chine, États-Unis, et il est clairement du côté chinois.
D'autant qu'on l'a vu en bonne position le 3 septembre à Pékin, lors de ce grand défilé militaire, dont il était d'ailleurs question dans Culture Monde vendredi dernier, avec Mélanie Chalandon et ses invités. Ce grand défilé militaire où Kim Jong-un avait une place de choix. Le contexte mondial a beaucoup changé entre le premier et le deuxième mandat de Donald Trump, on en parlera. En tout cas, sur la relation entre les deux hommes, Sébastien Faletti, Kim Jong-un se laisse désirer, n'a pas répondu aux appels du pied Donald Trump, vous le rappeliez. Il doit se délecter aussi de jouer ainsi sur les nerfs du président états-unien, puisque le New York Times a révélé début septembre une opération commando des forces spéciales américaines en Corée du Nord en 2019, donc en pleine négociation sur le programme nucléaire nord-coréen. Opération secrète ratée pour mettre sur écoute Kim Jong-un. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les détails qu'a donné de cette opération le New York Times, même si Donald Trump dément aujourd'hui?
Oui, c'est effectivement une opération extraordinaire qui a été révélée par le quotidien new-yorkais il y a quelques jours et qui révèle que quelques jours ou quelques semaines avant le fameux sommet de Hanoï qui était décisif pour l'avenir des négociations nucléaires, eh bien Donald Trump a donné le feu vert à ses forces spéciales, les Navy SEALs, pour mener une opération d'infiltration sur le territoire nord-coréen en pleine nuit, en plein hiver, pour déposer un instrument d'écoute pour pouvoir essayer de espionner les conversations de son adversaire. Donc ça montre à quel point Donald Trump était investi dans cette négociation, à quel point il souhaitait arriver à un résultat sur le front de la dénucléarisation, qui était un écueil que tous ses prédécesseurs n'ont jamais réussi à franchir. Et également, il a pris un risque énorme avec cette opération, parce qu'effectivement, si la Corée du Nord découvrait l'infiltration de ses commandos, on pouvait imaginer une réaction extrêmement incertaine, voire périlleuse, voire le déclenchement d'un conflit sur la péninsule. Il se trouve que cette opération, d'après le New York Times, a échoué. Les commandos se sont repliés car ils ne se sentaient pas en sécurité. Ils ont au passage tué 3 pêcheurs nord-coréens avant de disparaître dans les eaux récupérées par un sous-marin nucléaire. Donc on est dans du James Bond, c'est extraordinaire. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que après ce scoop qui est sorti il y a quelques jours, eh bien effectivement la Maison Blanche se mure dans le silence, mais la Corée du Nord se mure également en silence, comme la Corée du Sud. C'est-à-dire que tous les acteurs, personne ne commente. On ne sait pas comment interpréter ce silence, mais en tout cas, ça montre que, par exemple, la Corée du Nord, pour le moment, n'a pas réagi. Est-ce qu'elle était au courant de cette opération? Est-ce qu'elle le découvre? Ou alors, est-ce qu'elle ne réagit pas parce qu'elle veut garder ses options ouvertes avec la Maison Blanche? On le verra dans les prochains jours. Mais effectivement, pour le moment, la Corée du Nord montre sa force. Je crois que, comme on l'a signalé, la parade à Pékin marque vraiment la revanche de Kim Jong-un sur la scène mondiale. C'est la première fois qu'il allait à un sommet comme ça, de type multilatéral. Et il revient du froid, parce que après Hanoï, il était quand même isolé. C'était un échec pour lui. Puis il y a eu le Covid, où il a dû se claquemurer derrière ses frontières. Et pendant plusieurs années, dans une situation de difficulté économique, le leader suprême nord-coréen était quand même marginalisé. Donc aujourd'hui, il opère, comme l'a dit Pascal, un fracassant retour sur le devant de la scène, en s'appuyant sur son alliance avec Vladimir Poutine. Et désormais, maintenant, il se raviboche avec la Chine, avec qui les relations étaient assez frileuses ces dernières années.
Et frileux, où il revient du froid, vous utilisez le champ lexical du froid. Sébastien Faletti, les eaux autour de la Corée du Nord sont très froides. Et d'ailleurs, ces unités spéciales états-uniennes qui ont débarqué une nuit d'hiver après des mois de répétition dans les eaux américaines portaient plusieurs couches de couverture de survie. Ce serait la même unité que celle qui a tué Oussama Ben Laden en 2011. Le New York Times donne 1000 détails. La taille des deux mini sous-marins dans lesquels ces forces spéciales s'approchent du rivage qui ont la taille d'une orque. Une petite embarcation de pêcheurs en effet est présente tout près du lieu. Les États-Unis tuent les deux ou trois membres d'équipage pour être sûrs qu'ils ne parleront pas. Donald Trump dit qu'il n'a jamais entendu parler de cette histoire. Alors quand on dit qu'il a envoyé une invitation à Kim Jong-un qui n'a pas répondu, c'est un abus de langage. Il n'a pas envoyé d'invitation officielle, n'a pas proposé de date précise, mais surtout, Pascal Deyès-Burgeon, que se propose-t-il de pacifier la Corée du Nord, la Corée du Sud, certes, ne s'entendent pas, mais il n'y a pas de guerre ouverte.
À mon sens, le sort de la Corée l'indiffère absolument. Le seul intérêt de la Corée pour Donald Trump, dans une logique de réalpolitik, c'est que c'est une menace contre la Chine, en fait. Hein. Donc, s'entendre avec la Corée du Nord, quelle que soit l'entente, ou même dialoguer, c'est déjà très agaçant pour Pékin. La situation de la Corée du Nord doit être comparée à celle de Cuba, d'une certaine manière, au temps de la guerre froide. Cuba est une menace très proche des États-Unis, et évidemment l'Union soviétique s'amusait avec Cuba, et donc Donald Trump s'amuse avec la Corée du Nord, si je peux employer ce terme, qui est très proche quand même de la Chine. C'est stratégique pour la Chine. Quel que soit le dialogue avec la Corée du Nord, c'est un irritant pour la Chine, et je crois que c'est surtout ça qui intéresse Donald Trump. Le sort de la Corée l'indiffère totalement. Quand je l'entends dire au président Jae-myung, vous serez un grand faiseur de paix, alors que les États-Unis sont le principal obstacle à la paix sur la péninsule. Sans la position géopolitique de la Corée, eh bien, les États-Unis pourraient très bien laisser la Corée se réunifier, mais il n'en est pas question. Je suis aussi intéressé de voir qu'il déclare que c'est le seul pays divisé. Il n'est donc pas très très bon. Il n'a jamais entendu parler de Chypre, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des dossiers peu préparés, c'est très communicant, mais ça cache les réelles intentions qui est, je crois, cette guerre froide qui a commencé déjà à l'époque du président Obama, hein, et dont le président Xi Jinping a fait allusion lors de son discours. Il y a une opposition entre ces deux superpuissances, et la Corée n'est qu'un pion dans cette opposition. Il n'y a pas que la Corée, il y a aussi Taïwan, qui posera un autre type de problème. Voilà, je pense que c'est ça la position de Donald Trump.
Tout ce qui peut embarrasser Pékin est bon à prendre, donc d'après vous, Pascal Deyès-Burgeon. Alors que peut-il faire Donald Trump de plus, par exemple, que le président de la Corée du Sud, cette fois le président... Alors vous m'avez appris, je ne savais pas Pascal Deyès-Burgeon, donc j'en fais profiter les auditeurs, qu'on ne disait pas Lee Jae-myung en coréen, mais Lee Jae-myung, et que les Américains, les États-Unis ont rajouté plein de lettres au patronyme sud-coréen pour voir mieux les prononcer. Par exemple, le patronyme Park, en fait, en vrai, en coréen, c'est Pak.
Absolument.
Mais les États-Unis ont rajouté un R. Bref, en tout cas, ce président sud-coréen, Lee Jae-myung, élu en juin, il affiche la volonté de pacifier la relation avec le Nord, cette politique du rayon de soleil qui est récurrente à chaque fois qu'un président de gauche arrive en Corée du Sud, Sébastien Faletti. Donc, qu'est-ce que Donald Trump compte faire de plus que le président sud-coréen en matière de pacification des relations entre les deux Corées?
Toute la question, c'est que, en gros, la Corée du Nord et par la voix notamment de Kim Yo-jong, qui est la petite sœur du leader suprême, qui a fait des déclarations très très claires au mois de juillet dernier, où elle expliquait en gros aux États-Unis d'aller faire leur devoir, c'est-à-dire si vous voulez nous parler. Pourquoi pas, mais il va falloir que vous compreniez que le monde a changé et il va falloir venir avec des propositions beaucoup plus substantielles. Donc en gros, c'est la Corée du Nord qui pose ses conditions, mais on voit qu'elle ne ferme pas complètement la porte avec Washington. En revanche, le président Lee Jae-myung de Corée du Sud, qui vient d'être élu au mois de mai, lui, il reprend l'approche habituelle de son parti démocratique de Corée, qui est le dialogue avec le Nord, avec le frère ennemi du Nord. Mais pour le moment, Pyongyang l'ignore totalement. Et en fait, Lee Jae-myung essaye de répéter la manœuvre qu'avait fait son prédécesseur du même parti, Moon Jae-in, qui avait réussi à jouer les entremetteurs entre Donald Trump et Kim Jong-un en 2018. Le problème, c'est que désormais, ces deux hommes forts n'ont plus besoin de la Corée du Sud.
Ils ont leur numéro direct.
Le lien est directement établi par la Maison Blanche a les moyens de communiquer directement avec le Nord. Donc Séoul est dans une situation très difficile parce qu'elle n'a plus grand-chose à offrir pour exister dans cette relation diplomatique. Et avec évidemment une grande inquiétude ici, c'est si jamais il y avait un deal, comme on dit, dans le dos de la Corée du Sud entre Washington et Pyongyang, un deal qui, par exemple, validerait le statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord. Donc ça, c'est un peu le cauchemar stratégique vu de Séoul. C'est un accord au sommet entre ces deux hommes forts qui, finalement, confirmerait la stratégie nucléaire du dictateur.
Surtout que Donald Trump a fait une petite bourde à un moment en parlant de la Corée du Nord comme d'une puissance nucléaire. Il s'est fait manifestement rabrouer par certains dans son équipe en disant que les États-Unis ne considéraient pas officiellement la Corée du Nord comme une puissance nucléaire. Donc la question de la dénucléarisation de la Corée du Nord est bien sûr au cœur des discours de Donald Trump quand il dit qu'il va pacifier ou qu'il se rêve en entremetteur entre Corée du Nord et Corée du Sud. D'ailleurs, une précision, Pascal Daïs-Burgeon, tout à l'heure vous disiez qu'il ignorait par exemple que Malte est...
Cuba.
Que Chypre, non, je sais, Chypre. Que est un pays divisé en deux également, parce que lui pense réunifier les deux Corées, ou parce qu'il me semble qu'aujourd'hui réunifier c'est presque un acte d'hostilité. La Corée du Nord considère que la Corée du Sud veut réunifier les deux Corées pour l'absorber. Donc de quel vocabulaire faut-il retenir, réunifier les deux Corées ou les rapprocher?
Ah, ça ne peut être qu'un rapprochement. La réunification, on ne la verra pas de notre vivant. Hein. Ce sont deux États qui se sont totalement séparés et qui ont des logiques totalement opposées. Donc
oui, rien à voir avec Chypre non plus.
De toute façon, qui dit réunification dit absorption de l'un par l'autre. Et si réunification il doit y avoir, bien entendu, ça sera le Sud qui absorbera le Nord, parce que le Nord n'a absolument pas les moyens ni de conquérir le Sud, ni de l'absorber, ni de quoi que ce soit. Alors que le Sud a tous les moyens d'absorber le Nord, de le conquérir, de l'aménager, de le transformer.
Le Sud est plus fort que le Nord.
Le Sud est beaucoup plus puissant,
même sans
militairement, que le Nord. Il n'a pas de bombe nucléaire, mais la bombe nucléaire nord-coréenne est une bombe politique qui ne l'utilisera pas. Que voulez-vous qu'il utilise une bombe atomique contre la Corée du Sud? Ce serait idiot. Contre le Japon, c'est impossible. Contre les États-Unis, ce n'est même pas techniquement possible. Et contre la Chine, c'est impossible aussi.
Après, on ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête d'un dirigeant et comment ça peut se décider rapidement.
La folie nucléaire, finalement, ne sait jamais... c'est une arme essentiellement politique, maintenant. Et on peut constater, d'ailleurs, que c'est le retard de la Corée du Nord par rapport à d'autres puissances qui peut, à terme, lui causer des difficultés. Regardez la nullité des troupes nord-coréennes sur le front ukrainien.
Elles sont nulles, c'est vrai ?
Totalement catastrophique.
En quoi ?
C'est de la chair à canon. Ils sont incapables de lutter contre les Ukrainiens. Il y a un nombre de morts colossaux. Ils sont affolés par les drones. Il y a des tas de types d'armements qu'ils ne connaissent pas. La Corée du Nord a tout nucléarisé dans un monde où, finalement, l'arme nucléaire est plus politique qu'autre chose. En Ukraine, je sais bien que le président Poutine a passé son temps à dire qu'il allait nucléariser Paris, Varsovie, Rome et Londres. Enfin, pour le moment, il n'y a qu'une guerre de drones quand même. Hein. Et ça, les Nord-Coréens ne peuvent pas mener comme type de guerre. Les Sud-Coréens peuvent le faire. Donc, je crois que c'est un tigre de papier, comme la Corée du Nord.
La Corée du Sud, elle, a bénéficié d'une grande aide militaire des États-Unis, une alliance militaire à laquelle le président sud-coréen reste très très attaché.
Le président Trump et moi-même avons convenu de moderniser notre alliance bilatérale afin de la rendre plus réciproque et tournée vers l'avenir, en phase avec l'évolution du paysage sécuritaire. L'engagement des États-Unis en matière de défense envers la République de Corée et notre posture de défense commune reste inébranlable et indéfectible. Dans le même temps, la Corée jouera un rôle plus prépondérant dans le maintien de la sécurité dans la péninsule coréenne.
Lee Jae-myung, le 26 août dernier à Washington, lors de sa visite à la Maison-Blanche, il a rencontré longuement Donald Trump. Est-ce qu'une réconciliation entre Donald Trump et Kim Jong-un se ferait, Sébastien Faletti, se ferait plutôt au détriment de la Corée du Sud ou plutôt en sa faveur? Comment la Corée du Sud appréhende ces discussions que Trump continue à envisager avec son homologue nord-coréen?
Le pari de Lee Jae-myung, c'est d'essayer de s'infiltrer, de surfer sur cette potentielle dynamique pour pouvoir exister. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la grande crainte de Séoul, c'est d'être complètement marginalisé dans une relation, dans une négociation bilatérale. Déjà en 2018-2019, à l'époque de Singapour et d'Hanoï, Moon Jae-in avait eu beaucoup de mal, une fois qu'il avait joué les entremetteurs, il avait eu beaucoup de mal à exister dans la salle. Il était mis de côté. Et cette fois-ci, la Corée du Nord affirme encore plus clairement qu'elle ne veut pas entendre parler de Séoul. Elle n'est pas intéressée d'avoir des échanges avec la Corée du Sud. Donc la pente est encore plus ardue. Donc la grande question, c'est quand même la question nucléaire. Vous avez évoqué une éventuelle bourde de Donald Trump, mais est-ce une bourde ou bien est-ce plutôt un signal indirect envoyé par le président à son homologue, en tout cas son
une façon de le flatter,
nord-coréen, oui. En lui laissant entendre qu'il était ouvert à des discussions sur un autre plan. Et c'est un ballon d'essai. Donc il y a tout ça qui plane et la question nucléaire est dans toutes les têtes ici à Séoul parce que de plus en plus de politiciens et même de stratèges commencent à dire que si la Corée du Nord est reconnue comme puissance nucléaire, eh bien la Corée du Sud devra à son tour emboîter le pas et développer son propre arsenal stratégique. Et en arrière-plan, il y a bien sûr le doute grandissant sur le parapluie nucléaire américain. Quand il voit ce qui se passe en Ukraine, quand il voit comment Trump reste très frileux face à ses alliés, notamment européens, eh bien, de plus en plus de stratèges ici se disent, sur le long terme, on ne va plus pouvoir compter autant sur Washington et il faut compter sur soi-même.
Donc ça c'est aussi quelque chose qui a pu changer ces quatre dernières années. Kim Jong-un, très certainement par ailleurs, ne compte plus du tout renoncer à l'arme nucléaire, à se dénucléariser, alors qu'il l'avait, selon ses dires, envisagé, c'était en 2019.
La détermination de notre parti, de notre gouvernement et de moi-même en faveur d'une dénucléarisation complète reste inchangée. Nous avons proclamé que nous ne fabriquerions plus d'armes nucléaires, que nous ne les utiliserions pas et que nous ne les diffuserions pas. Nous avons également déjà pris diverses mesures concrètes. Je suis toujours prêt à m'asseoir à nouveau à la table des négociations avec le président américain à tout moment et je m'efforcerai d'aboutir à un résultat qui sera bien accueilli par la communauté internationale. Cependant, si les États-Unis se trompent dans leur estimation de la patience de notre peuple, nous imposent quelque chose et poursuivent leurs sanctions et leurs pressions sans tenir la promesse qu'ils ont faite devant le monde entier, nous n'aurons d'autre choix que d'explorer une nouvelle voie afin de protéger notre souveraineté et de parvenir à la paix dans la péninsule coréenne.
Un discours qui date de 2019, mais sa première partie, Pascal Daïès-Burgeon, est déjà extrêmement datée. Le fait que Kim Jong-un dise à l'époque qu'il était prêt à considérer le fait de dénucléariser la Corée du Nord.
Ah oui, mais ça c'est le double langage systématique. Hein. On est prêt à la paix et à dénucléariser, et en même temps on fourbit des armes nucléaires. Donc ça, ce n'est pas très surprenant. Je crois que il ne faudrait pas non plus trop. Bien sûr, le poids des relations internationales est important, mais il y a aussi l'ordre intérieur. La bombe atomique est le vecteur de légitimité du régime. C'est un régime atomique. Hein. Sans bombe atomique, le régime s'effondre. Donc, Kim Jong-un a absolument besoin de l'arme atomique. Il n'y a jamais eu une quelconque intention d'y renoncer. On le voit bien dans la réalité. C'est pour des raisons historiques, pour des raisons presque au-delà d'illogie, presque culturelles, que l'arme atomique est essentielle. N'oublions pas que l'ennemi fondamental de la Corée, c'est le Japon. Il a été détruit par l'arme atomique. Donc, si la Corée a l'arme atomique, c'est elle est plus forte historiquement que son ennemi de toujours, le Japon, sans parler de la Chine. Quant au Sud, certes, le président Lee Jae-myung fait, comme Moon Jae-in, mais dans une circonstance très différente, des appels d'offres à la Corée du Nord, mais il faut voir aussi que c'est pour des raisons intérieures. La peur de la Corée du Nord est instrumentalisée par la droite ou l'extrême droite coréenne, sud-coréenne, depuis toujours. On parle de Pukpong, le vent du Nord. Dès qu'il y a un problème, c'est la Corée du Nord. D'ailleurs, le coup d'État du président Yoon était fait au nom d'une potentielle invasion de la Corée du Nord en Corée du Sud, auquel personne ne croit quand même. Donc, dire qu'on est pour la Corée du Nord, c'est une manière de dire « je ne suis pas d'extrême droite ». Bon, ce n'est pas un président de gauche non plus. Hein. La situation de la Corée, c'est d'avoir, je dirais, un centre droit et une extrême droite, hein, globalement. Voilà la réalité. Donc, être pour la Corée du Nord, c'est, en vrai dire, ne pas être d'extrême droite. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça ne veut pas se traduire forcément par une nouvelle rencontre au sommet, ni quoi que ce soit, compte tenu de la conjoncture actuelle. Et puis alors, effectivement, ces images que vous avez évoquées, où l'on voit Kim Jong-un mis sur la même position que Poutine auprès du président chinois, fait que, bon, bah, pour le moment, c'est impossible. Un rapprochement paraît très, très difficile. Alors, je crois que les raisons intérieures comptent aussi beaucoup.
Cette scène-là que vous décrivez le 3 septembre à Pékin, Kim Jong-un reçu parmi de nombreux autres chefs d'État des Sud par le président chinois Xi Jinping, dont vous voyez sur le devant de la scène, qu'a voulu montrer le président chinois d'abord avec une telle image, d'après vous, Sébastien Faletti?
Effectivement, c'est une image frappante et qui n'était pas forcément certaine, parce que la Chine a toujours voulu, sur la Corée du Nord, tout en étant le principal bailleur du régime et le maintien à flot, sur le front international, face à Washington, elle a traditionnellement toujours voulu dire qu'elle était contre la nucléarisation de la péninsule, qu'elle impliquait des sanctions et qu'elle essayait de jouer un rôle responsable pour éviter un dérapage. Là, en invitant en grande pompe le leader suprême sur la place Tiananmen, on peut dire que le président Xi a vraiment envoyé un signe de défiance aussi en direction de Washington, en disant « ne comptez pas sur moi pour le modérer, en tout cas ne me demandez pas de faire des efforts ». Donc c'est une escalade dans la forme de confrontation, dans le contexte effectivement du bras de fer stratégique sino-américain, qui est vraiment le cœur du sujet. Évidemment, dans ce jeu-là, la Corée du Nord est une des cartes, bien sûr. Mais après, on peut le lire aussi du point de vue de Kim Jong-un, en venant comme cela à Pékin, pour ses premiers rendez-vous avec le président chinois depuis plus de 6 ans, eh bien, à la fois, c'est un signe d'alignement et c'est le signe d'un bloc anti-occidental, mais c'est un signe de défi à Donald Trump, mais aussi, on pourrait presque dire, c'est un peu un appât qu'il lance aussi au président américain, parce que on sait que le président américain, il rêve déjà de rencontrer le président Xi Jinping, il n'arrive toujours pas à avoir un rendez-vous, il dit qu'il veut rencontrer Kim Jong-un, il essaye de d'amadouer Vladimir Poutine. C'est finalement, à Pékin, il y avait tous ces personnages que le président américain souhaite rencontrer. Donc aussi, Kim Jong-un accroît sa valeur, je dirais, sur le marché en venant. Donc on peut aussi le lire comme une façon de montrer sa force, mais aussi de dire au président américain, eh bien voilà, je suis là, j'ai des amis, si tu veux me parler, eh bien il va falloir que tu muscles ton jeu, que tu me donnes des choses, que tu me proposes des choses, sinon je n'ai pas besoin de toi.
Allez, gageons que les deux hommes se tutoient, on va le dire, quel protecteur Vladimir Poutine, lui, quel protecteur est-il, Pascal Daïès-Burgeon, envers le dirigeant nord-coréen? Comment cette relation-là a évolué et comment savoir si le président russe se sent redevable de l'aide militaire, notamment que la Corée du Nord a consenti à la Russie pour la guerre en Ukraine, même si vous nous rappeliez que cette aide était quand même assez piteuse d'une certaine façon?
À vrai dire, c'est plutôt un marché de dupes. C'est plutôt l'accord du Nord qui tire beaucoup d'avantages de cette relation. L'image que nous venons d'évoquer, on peut aussi l'analyser comme quelque chose de très humiliant pour Poutine. Parce que, somme toute, vous avez au centre le président chinois, le président russe et le président nord-coréen mis sur un pied d'égalité, comme un podium olympique. Alors que, en fait, la Corée du Nord n'est pas une puissance. C'est une toute petite puissance, c'est rien par rapport à la Russie. Donc c'est quand même un peu humiliant d'une certaine manière. Et alors l'intérêt pour la Corée du Nord, eh bien, c'est de depuis qu'elle existe, elle a toujours joué Pékin contre Moscou, hein, c'est le grand truc. Donc, quand elle a essayé de se rapprocher des États-Unis, elle s'est dit, bah peut-être, je vais pouvoir jouer maintenant Washington et Moscou et Pékin. Jouer à trois cartes, ça serait parfait. Bon, bah ça n'a pas marché avec Washington. Reste deux cartes. Donc, se rapprocher de la Russie, c'est absolument fondamental pour bien montrer à Pékin qu'on peut vivre sans Pékin, ce qui n'est pas vrai, hein, parce que comme le disait Monsieur Faletti, la Corée du Nord est une colonie économique de la Chine. En revanche, je vous évoquais tout à l'heure les eaux froides. Non, c'est ça aussi le grand intérêt pour la Russie. Vladivostok est sous la glace pendant 6 mois par an, ce qui n'est pas le cas des ports nord-coréens, Wonsan par exemple. Et donc, il est intéressant pour la Russie de pouvoir éventuellement bénéficier des ports nord-coréens. En revanche, pour la Corée du Nord, le transfert de technologies auxquelles ils ont eu droit en envoyant des dizaines de soldats, enfin des centaines, milliers de soldats se faire tuer comme de la chair à canon... est très intéressante aussi pour la Corée du Nord. Donc, ils en noteraient peut-être plus d'avantages que la Russie. Mais d'un autre côté, la Russie joue aussi sur la Corée du Nord par rapport à la Chine. Donc, c'est un jeu à trois assez complexe.
Un jeu à trois et Kim Jong-un ne compte pas se passer de la carte russe.
Comme je l'ai mentionné, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous et pour le peuple russe, je considère qu'il est de mon devoir fraternel d'assumer cette responsabilité et je suis prêt à faire tout mon possible pour vous aider. Je pense qu'à l'avenir, nous devrions nous efforcer de renforcer notre coopération dans divers domaines afin d'obtenir des résultats qui amélioreront le bien-être des peuples de nos deux pays.
Kim Jong-un face à Vladimir Poutine en septembre, là, il y a quelques jours. La question qui se pose, Sébastien Faletti, jusqu'où Chine et Russie sont-elles prêtes à se montrer alliées à la Corée du Nord, à être des interlocuteurs loyaux de Kim Jong-un?
Bien, évidemment, comme on vient de le dire, il y a en réalité une rivalité de tout temps entre la Russie et la Chine pour l'influence à Pyongyang. Et effectivement, l'influence chinoise est bien plus importante, elle la reste. Mais effectivement, le régime nord-coréen, déjà Kim Il-sung le faisait, joue régulièrement l'un contre l'autre. Ce qui est intéressant dans la chorégraphie de cette parade, c'est qu'effectivement, on voit que la Chine a fait amende honorable. On sait qu'elle a été froissée par ce rapprochement spectaculaire entre Kim et Poutine, et en invitant, elle fait finalement amende honorable. Mais on note qu'il n'y a pas eu non plus de rencontre trilatérale à Pékin, ce qui montre quand même les limites de cette manœuvre. Et on sait que la rivalité va continuer en coulisses pour l'influence à Pyongyang, et la Chine reste fortement bien mieux placée, bien sûr. Mais effectivement, la question, c'est est-ce qu'on assiste à un véritable front anti-occidental de confrontation, ou est-ce que la Chine va continuer à jouer sa carte plutôt avec les pays émergents en se montrant malgré tout comme un État responsable, ouvert au libre-échange, comme ils le disent, multilatéraliste. C'est un peu il y a une ambiguïté dans la grande parade qu'on a vue la semaine dernière, parce qu'on a vu un durcissement chinois. Est-ce que c'est simplement éphémère à ce moment-là, ou bien est-ce qu'on assiste un renforcement de ce front pour mieux confronter directement les États-Unis. Et dans ces cas-là, effectivement, Kim Jong-un peut en tirer des bénéfices parce que il n'aura plus de pression de Pékin sur le front, par exemple, nucléaire. Il aura, en tout cas, les coups des franges pour son agenda et sa fuite en avant atomique.
Ce qui ne l'empêche pas, me semble-t-il, de continuer à avoir un certain intérêt à ne pas trop se fâcher ou peut-être à donner quelques gages à Donald Trump, ne serait-ce que pour que les États-Unis lèvent les quelques sanctions qui existent auprès de la Corée du Nord. Les dernières, par exemple, en date, sont celles imposées par le Trésor contre des entreprises nord-coréennes accusées de voler des données, d'exiger des rançons. C'est ça, Pascal Daïès-Burgeon. Je ne sais pas exactement de quoi il retourne en l'occurrence, mais Kim Jong-un a intérêt quand même, a un certain intérêt à aller chercher auprès des États-Unis ce qu'il ne peut pas obtenir, ni de la Russie, qui, quand bien même celle-ci empêche que soient votées de grosses sanctions à l'ONU avec son droit de veto, ou de la Chine. Il y a quelque chose qui lui manque quand même si...
Oui, parce qu'en fait, bon, l'augmentation des sanctions, maintenant, ne la touche plus, puisqu'elles ne sont pas votées par la Russie et la Chine à l'ONU. En revanche, celles qui étaient votées avant demeurent. Donc, ce qu'il souhaiterait, c'est qu'on les lève, en fait, ces sanctions, qu'on les réduise. C'est d'ailleurs ce qu'il souhaitait au sommet de Singapour et de Hanoï. Il n'avait pas compris qu'il devait abandonner l'arme nucléaire pour ça. Et donc, ça ne se produit pas. Donc, je pense qu'il n'y compte plus, maintenant. Étant donné la situation de la Russie, qui est devenue également un paria sanctionné, somme toute, je pense que, comme l'économie nord-coréenne se porte à la fois très mal et plutôt bien, hein, et c'est-à-dire qu'il y a deux pays. Il y a la région de Pyongyang, qui vit je dirais, comme la Corée du Sud dans les années 70 à peu près, et le reste du pays qui, lui, est dans une condition misérable. Somme toute, le régime tient avec ses 10 millions à peu près, ou un peu moins, 7 millions d'habitants autour de Pyongyang, et là, les choses se passent bien, et les sanctions ne sont pas si graves que ça. Donc, voilà, le régime peut tenir comme ça. Je pense qu'il ne croit plus du tout au fait que le président Trump, s'il le rencontrait, demanderait à la réduction des sanctions. Donc, il préfère s'en tenir à ce régime de paria qui est le sien, qui le rapproche désormais de la Russie, et avec l'aide chinoise qui continue, puisque la frontière sino-nord-coréenne est une véritable passoire et que l'économie vit grâce à cela, l'économie nord-coréenne.
Donc, comment s'appelle-t-il ? Je vais y arriver. Kim Jong-un, pardon, continue à manifester une certaine défiance quand même vis-à-vis des États-Unis en accusant très régulièrement les États-Unis de vouloir, en menant des exercices militaires assez spectaculaires avec la Corée du Sud, de vouloir avoir toujours en tête une invasion de la Corée du Nord. Peut-être demandera-t-il, et peut-être a-t-il déjà demandé lors de son premier mandat à Donald Trump, lors de leur précédente rencontre, de fermer les bases américaines en Corée du Sud. Je ne sais pas, est-ce que c'est une idée qui a déjà traversé l'esprit du président états-unien Sébastien Faletti, parce que la Corée du Sud semble s'en inquiéter pas mal de cette question-là, de savoir si les États-Unis vont réduire leur présence militaire chez elles.
Bien sûr, c'est quelque chose qui est là depuis le premier mandat, parce qu'il faut se souvenir que quand même, lors du premier mandat, lors du sommet de Singapour, le président Trump a unilatéralement décidé avec Kim Jong-un de suspendre, par exemple, les exercices militaires conjoints qu'ils conduisent plusieurs fois par an et qui sont des irritants sur la péninsule. Eh bien, ça, c'était un premier signal de désengagement. Et ensuite, régulièrement, le président Trump a exigé de Séoul qu'il paye beaucoup plus pour l'effort de défense, assorti de la menace que, pourquoi pas, un jour, c'était pas intangible que les troupes américaines restent en Corée du Sud. Donc, il a fait miroiter cette possibilité de au moins réduire la présence militaire américaine. Et ça, d'un point de vue stratégique pour Pyongyang, c'est évidemment très intéressant sur le moyen long terme. Donc aujourd'hui, Kim Jong-un est bien conforté par ces deux, on va dire, protecteurs russes et chinois, mais parler à Donald Trump reste intéressant parce que même si il ne se fait aucune illusion sur un deal avec le président américain, ne serait-ce que déjà d'être courtisé, voir si Washington le veut vraiment, faire un sommet avec le président de la première puissance mondiale sur le plan de la propagande intérieure, c'est déjà extrêmement intéressant. Donc de toute façon, une rencontre aurait aussi un atout, et c'est aussi indirectement un levier en direction de Pékin et de Moscou
pour montrer qu'il a des options. Donc, parler avec les États-Unis a encore une valeur aujourd'hui. Et après, le Graal, peut-être pour la Corée du Nord, ce serait évidemment un accord, non pas de dénucléarisation, mais un accord de contrôle des armements, un petit peu comme on avait dans la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Un accord où, en fait, on accepterait de, entre guillemets, geler le programme nucléaire ou le nombre de têtes nucléaires, mais on garderait en fait ce statut d'assurance-vie pour le régime, et ça permettrait en échange une normalisation des relations avec les États-Unis, avec éventuellement des accords économiques. Ça apporterait cela une sorte de garantie sur l'avenir de la dynastie. Donc il y a encore quelque chose à gratter ou à gagner du point de vue de Pyongyang. Mais évidemment, il va être très prudent parce qu'il se souvient de son expérience à Hanoï.
En tout cas, ce sont autant de sujets qui, s'il y en a un qui est inquiet par toutes ces questions, c'est le président de la Corée du Sud, Lee Jae-myung, qui lui était fin août à Washington, à la Maison-Blanche, qui très certainement a essayé de convaincre Donald Trump de vraiment maintenir cette présence militaire en Corée du Sud. Ils ont aussi parlé des taxes douanières. La Corée du Sud est très dépendante des exportations. Elle a fini par obtenir un accord pour des taxes à 15%, alors que Donald Trump prévoyait 100%. Et puis, il y a cette affaire plus récente, et je vous en demande un tout petit mot, Pascal Daïès-Burgeon, ces 300 Sud-Coréens interpellés et emprisonnés aux États-Unis dans une usine de batteries électriques en Géorgie. Ils sont soupçonnés d'avoir enfreint les conditions de séjour et de travail stipulées par leur visa. Alors, hier ou ce matin, je ne sais pas, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient les libérer, ne pas les expulser, mais Séoul veut les faire rapatrier, semble très vexé par ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a de quoi remettre en cause les engagements pris, notamment économiques, de coopération entre Corée du Sud et États-Unis?
Ah non, ça je ne pense pas. Non, ça la Corée du Sud, vous l'avez dit, est totalement dépendante des relations internationales, enfin des exportations, et donc pas question de remettre en cause les relations avec les États-Unis. Mais en revanche, effectivement, c'est très vexant. Mais ça montre la dualité du rapport avec les États-Unis. La Corée du Sud adore les États-Unis. C'est complètement américanisé, emploie des mots américains partout. Enfin, on dirait vraiment quand on va à Séoul qu'on est dans une ville américaine. Et en même temps, déteste les États-Unis. Il y a cette dualité. Les feuilletons les plus connus sont très anti-américains. Vous prenez Squid Game, que tout le monde a vu parce que c'est un très très grand succès sur Netflix. C'est un feuilleton dans lequel on vous explique que les pauvres Coréens sont des victimes d'ignobles milliardaires américains qui jouent avec leur vie et avec leur mort. S'il n'y a pas plus anti-américain. Donc il y a l'anti-américanisme et le pro-américanisme sont constants en Corée du Sud. Donc actuellement, il va y avoir des tas de manifestations hostiles aux États-Unis. C'est scandaleux ce que vous avez fait. C'est d'ailleurs totalement scandaleux. Ça montre la totale autonomie délirante de ce service qui lutte contre l'immigration, qui, entre parenthèses, avait aussi arrêté un ministre français pendant 12 heures. On l'avait mis presque dans une prison. Vous êtes ministre français, on s'en fout, on vous met pas. Voilà. Donc, même chose avec les Coréens. Donc, ça va beaucoup les agacer, mais ça ne va rien changer.
Et parmi ces liens très forts qui jusqu'à présent, liaient justement Corée du Sud et États-Unis, il y en a un qu'on soupçonne moins quand on parle de la Corée du Sud et de ses relations, de cette admiration avec les États-Unis, c'est les protestants évangéliques et conservateurs qui sont en Corée du Sud, qui pour beaucoup ont été formés par les pasteurs états-uniens et qui ont très peur, ou en tout cas qui redoutent un rapprochement entre Donald Trump et la Corée du Nord.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
On aide les Nord-Coréens dans le but de les évangéliser. Tout est dans l'évangélisation. Si j'avais à choisir entre donner à manger aux réfugiés et les évangéliser, je choisirais l'évangélisation. Car c'est ça la vraie nourriture dont ils ont besoin. Les réfugiés n'ont pas le choix. Ils n'ont pas la possibilité de refuser l'évangélisation. En ce sens, c'est vrai qu'on les force. Mais je pense que c'est une opportunité pour eux de découvrir Dieu.
Quand le pasteur Cho Ki-won, missionnaire évangélique, parle de réfugiés, il évoque les transfuges nord-coréens qui fuient un système communiste que les protestants les plus politisés de Corée du Sud détestent plus que tout. De 100 000 personnes en 1945 à la fin de l'occupation japonaise, les protestants sont aujourd'hui plus de 9 millions, soit 20% de la population de Corée du Sud, et beaucoup tentent de peser dans les décisions politiques qui concernent le voisin du Nord. Alors ont-ils foi en Donald Trump? Bonjour, Hyun Kim.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'INALCO. Votre thèse porte sur l'église de Yoido du plein évangile. Vous allez nous en parler. D'abord, de quelle relation américano-coréenne cette présence massive de protestants en Corée du Sud aujourd'hui est-elle le legs, l'héritage?
Alors cela remonte de loin, justement, même lors de l'introduction justement de cette religion, le protestantisme en Corée du Sud à la fin du 19e siècle. Cela a été fait par les missionnaires essentiellement américains. Donc en fait, dès l'introduction de cette religion, en fait, voilà, le protestantisme a été vu comme une religion en fait moderne. C'est une religion en fait qui représentait la modernité, comme à l'image du missionnaire du pays, missionnaire pays, en fait, pardon, ce qui était donc les États-Unis. Alors, les missionnaires américains ont formé les pasteurs sud-coréens, comme vous l'avez évoqué, mais cela s'est fait, en fait, dès le début du régime militaire américain de 1945 à 1948. Et après cela, en fait, les églises protestantes se sont coréanisées. Il y a eu une indigénisation, une inculturation, en fait, de cette religion en Corée du Sud. Mais les pasteurs sud-coréens, notamment, en fait, ceux qui dirigent ce qu'on appelle les méga-églises, où on compte plusieurs dizaines de milliers de fidèles, entretiennent, en fait, une relation très étroite avec les évangélistes américains. Mmh. On pourrait citer le cas de l'église du plein évangile de Yoido, dont le fondateur était Choi Yong-gi. Et lui, en fait, il était vraiment pas uniquement une figure religieuse, il était vraiment à la frontière de dirigeant religieux et même, en fait, une figure, en fait, diplomatique, parce que, notamment dans les années 1960-70, où la Corée du Sud était vraiment en quête de légitimité, et aussi, en fait, ce pays cherchait une visibilité sur la scène internationale. Par exemple, ce pasteur qui entretenait des liens très étroits avec les évangélistes américains, qui voyageait aux États-Unis, en fait, qui prenait les paroles dans des grands rassemblements aux États-Unis, a été très bien vu. Et ce type de lien, en fait, qu'entretenaient les pasteurs sud-coréens avec les évangélistes états-uniens, était très précieux pour la Corée.
Et vous racontez dans vos travaux ce pasteur états-unien Billy Graham, qui, dans les années 70, entreprend une tournée en Corée du Sud, qui réussit à provoquer de très grands rassemblements, 3 200 000 fidèles, par exemple, à Séoul, pour aller écouter Billy Graham. Donc, une filiation qui subsiste. Les protestants sud-coréens se revendiquent encore de cet héritage-là. Les protestants aujourd'hui, Hin Myon Kim, ils sont plus de 9,5 millions sur une population de 52 millions. Comment ce nombre et ses proportions ont-ils évolué dans le temps ?
Oui, en effet, c'est très étonnant parce que, enfin, il y a à peine 150 ans, cette religion n'existait pas. Maintenant, en fait, c'est voilà une personne sur cinq en Corée du Sud, en fait, qui se revendique protestant. Alors, oui, alors il y a eu en fait plusieurs phases de développement des églises protestantes en Corée du Sud, notamment pendant l'industrialisation du pays. Les églises protestantes qui sont massives, enfin qui sont principalement conservatrices, ont vraiment prôné l'idéologie, l'anticommunisme pendant la guerre froide, pour aussi s'aligner en fait au discours du régime en place, qui était le régime militaire dictatorial. Et en fait, ces églises, en fait, qui réussissaient à rassembler un grand nombre de fidèles, avaient un pouvoir en fait de mobilisation sociale. Donc ces églises pouvaient aussi mobiliser en fait leurs fidèles pour en fait qu'ils se mettent à se sacrifier pour la cause, pour défendre la cause nationale, qui était la croissance économique. Et dans ce discours-là, ils mobilisaient la Corée du Nord comme le mal, parce que en fait ce pays représentait l'anticommunisme. C'est ainsi en fait que ces églises en fait avaient réussi aussi à s'inscrire dans le discours gouvernemental et aussi rassembler les Sud-Coréens. Mais aujourd'hui, ce discours en fait a perdu sa force dans une Corée désormais développée et plus ouverte aussi à des politiques de rapprochement intercoréen. Le message de la théologie de la prospérité, par exemple, pour faire simple, croire pour devenir riche, ne convainc plus vraiment des classes moyennes éduquées. Donc les églises doivent donc trouver d'autres leviers de légitimation et de recrutement. C'est dans ce cadre que l'action humanitaire et missionnaire s'impose. La Corée du Sud est aujourd'hui le deuxième pays du monde qui envoie le plus grand nombre de missionnaires protestants après les États-Unis. Ils sont très actifs, notamment en Asie du Sud-Est. Donc ces missionnaires se voient en fait comme des héritiers du rejet autrefois par les Américains en Corée.
D'accord. Donc, on entend bien aussi que dans les valeurs défendues par ces missionnaires évangéliques en Corée du Sud, beaucoup gardent cette priorité, cet objectif ultime qui est de lutter contre le communisme, donc l'hostilité à la Corée du Nord, ce qui les distingue des évangéliques états-uniens qui ont d'autres priorités quant à eux, mais avec quand même des valeurs communes. La tendance prémillénariste, par exemple, cette doctrine qui affirme que Jésus reviendra sur Terre après avoir terrassé Satan et qu'il régnera pendant 1000 ans, mais aussi sur des valeurs, disons, plus politiques, la question des minorités sexuelles, des musulmans, des migrants, des objecteurs de conscience aussi, tout ça rassemble les évangéliques sud-coréens et états-uniens. Ça crée encore des liens aujourd'hui, alors que Donald Trump a été porté de nouveau au pouvoir, y compris par les évangéliques.
Oui. Alors, on peut voir en effet, en fait, cette proximité dans les réseaux évangéliques, en fait, sud-coréens. Encore aujourd'hui, en fait, plus récemment, depuis 2017, par exemple, on voit des militants évangéliques sud-coréens qui sont, voilà, conservateurs pour la plupart. Ils brandissent, en fait, le drapeau d'Israël lors de rassemblements de la droite. En fait, que ça soit pour défendre, enfin, pour justement demander, pour en fait afficher, pardon, leur opposition, en fait, à des causes, en fait, homosexuelles, enfin, pour la communauté homosexuelle, pardon. Mais en tout cas, cela montre, en fait, que c'est un signe de leur attachement aussi au sionisme chrétien qui est très présent, en fait, dans les milieux évangéliques américains.
La doctrine millénariste qui suppose que le peuple juif doit être de retour à Jérusalem pour que Jésus revienne. Pardon, j'ai pas compris ce que vous avez dit sur la question homosexuelle. Pourquoi brandir le drapeau d'Israël, qui en l'occurrence sur les droits des homosexuels est quand même très tolérant, pour défendre des valeurs contre l'homosexualité?
Alors, donc, en fait, je voulais dire, les églises protestantes évangéliques, en fait, conservatrices, elles sont très présentes lors des manifestations, comme par exemple celle qui rassemblait, en fait, un grand nombre de des Sud-Coréens pour, enfin, bon, c'est une manifestation minoritaire, hein, cela reste minoritaire, mais lors de manifestations, en fait, qui revendiquaient le droit des homosexuels, de la minorité sexuelle en Corée du Sud, voilà, les églises évangéliques étaient présentes, en fait, mais ils brandissaient à la fois les drapeaux américains et, en fait, à l'occasion, un peu de manière un peu incongrue, en fait, les drapeaux, en fait, aussi israéliens. Donc, en fait, ils, dans leur rassemblement de ce genre de type, en fait, voilà, ils se revendiquent aussi proches des États-Unis, mais aussi, en fait, d'Israël.
Alors, est-ce que ces protestants sud-coréens, aujourd'hui, ceux qui sont les plus actifs, notamment en politique, sont en lien, plus ou moins, avec les États-Unis aujourd'hui, quand Donald Trump brandit l'idée de re-rencontrer Kim Jong-un et de se remettre en langue avec le président nord-coréen? Qu'en pensent ces évangéliques de Corée du Sud, et est-ce qu'ils essayent de peser d'une façon ou d'une autre?
Moi, je ne dirais pas, en fait, qu'ils aient un lien direct avec Donald Trump, pour vous, avec les hommes politiques, en fait, dans le cadre de ces discussions. Mais en fait, quand justement il y a des séquences diplomatiques, par exemple lors des sommets entre Washington, Séoul et Pyongyang, et quand justement Donald Trump, en fait, prononce un discours sur le rapprochement ou la rencontre éventuelle avec les dirigeants nord-coréens, ces églises évangéliques, en fait, en profitent pour rappeler leur mission, qui est aider les Nord-Coréens et prier pour eux, préparer un avenir où les Nord-Coréens pourraient retrouver une liberté religieuse. Ce qui montre, en fait, qu'il y a eu une véritable transformation, c'est-à-dire, en fait, les églises protestantes en Corée du Sud étaient vraiment très anticommunistes, mais ces églises recherchent aujourd'hui, en fait, à se réinventer à travers l'action humanitaire et aussi en se préparant comme justement, en fait, prête à aider la Corée du Nord.
Donc, merci beaucoup, Hee-yeon. Merci, Hee-yeon Kim, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'INALCO. Et comme on arrive à la fin de cette émission, je vous remercie, Pascal Daïès-Burgeon. Je rappelle le titre de votre livre, La Dynastie Rouge, Corée du Nord, 1945-2015, chez Perrin. Et Sébastien Faletti, correspondant du Figaro à Séoul, d'où il était en direct avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture. La revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous nous emmenez, Catherine, en Afrique du Sud d'abord pour un procès retentissant sur le travail forcé. Un fléau en Afrique du Sud, souligne la chaîne télévisée Newsroom Africa. Si bien que, pour les faits et pour l'exemple aussi, 7 ressortissants chinois ont été condamnés à 20 ans de prison pour avoir fait passer clandestinement des habitants du Malawi en Afrique du Sud avant de les soumettre au travail forcé, explique ABC News. Il y a 6 ans, les autorités avaient fait une descente dans une usine de Johannesburg d'où un ouvrier s'était échappé. La police avait alors découvert 91 Malawites, dont 37 enfants, travaillant dans des conditions épouvantables pour rembourrer des couvertures à partir de matériaux recyclés, ajoute Newsroom Africa et la BBC. Ces employés étaient contraints de travailler 11 heures par jour, 7 jours sur 7, sans formation adéquate ni équipement de sécurité, payés à moins de 2 dollars par jour, bien en dessous du salaire minimum sud-africain. Impossible, par ailleurs, de quitter l'usine, très bien gardée et bien mal nommée, relève la BBC. Le site s'appelait Beautiful City, une belle ville.
Human trafficking has become a scourge in our country. We have become a destination as South Africa.
Le trafic d'êtres humains est devenu un fléau en Afrique du Sud, l'une de ses destinations, notamment à cause de la porosité de nos frontières et de notre situation géographique, rapporte la chaîne télévisée sud-africaine Newsroom Africa. Et ce procès illustre le besoin de tuer ce phénomène dans l'œuf. Un fléau également dans le secteur minier illégal en Afrique du Sud, rappelle le Mail and Guardian, avec aussi des violences sexuelles commises contre des mineurs.
Une question à présent, Catherine. Le géant Apple a-t-il adapté son intelligence artificielle générative à la culture de l'ère Trump?
C'est la question que pose Politico, qui a pu consulter un document d'une centaine de pages adressé au bureau à Barcelone de Transperfect, un sous-traitant d'Apple. Quelques 200 salariés ont reçu de nouvelles consignes de leur entreprise pour relire et noter les réponses d'un modèle d'IA générative qu'Apple doit présenter l'an prochain, selon Bloomberg. Et selon 2 salariés interrogés par Politico sous couvert d'anonymat, il faut désormais prendre plus de précautions lorsque l'IA évoque les élections, les vaccins, Donald Trump et ses partisans ou encore l'entreprise Apple elle-même. Et la liste des sujets sensibles s'est allongée, incluant désormais l'avortement, les discriminations positives, les droits LGBTQ+, le contrôle des armes à feu, la bande de Gaza. Elle est désormais incluse, explique Politico, dans une liste de territoires contestés qui appelle à un traitement spécifique des annotateurs ou des data engineers. Ils ont pour mission d'apprendre aux grands modèles de langage à répondre à des prompts, c'est-à-dire aux demandes des utilisateurs, en s'assurant que le modèle d'IA fournit de bonnes réponses. Dans cette liste de territoires contestés, on retrouve également la Crimée, le Cachemire ou encore Taïwan, autant de régions qui n'étaient pas mentionnées dans la version précédente. La diversité, l'égalité et l'inclusion, le fameux DEI ONI par l'administration Trump, est désormais dans la catégorie des sujets controversés. Apple conteste de son côté les accusations de Politico, prétendant que nous avons changé d'approche ou de politique est totalement faux, répond la firme à la pomme. De son côté, le Los Angeles Times analyse l'approfondissement des relations de Donald Trump avec la tech. Lors d'un dîner à la Maison Blanche, jeudi dernier, une trentaine de dirigeants de la tech étaient réunis pour parler investissement aux États-Unis, mais pas seulement, souligne le Wall Street Journal et les sites spécialisés The Verge et Wired. C'était à qui trouverait le meilleur superlatif pour flatter Donald Trump.
Thank you.
Incroyable leadership, selon Bill Gates, cofondateur de Microsoft. Merci d'être un président qui soutient autant les entreprises et l'innovation, a renchéri Sam Altman, patron d'OpenAI, également cité par le Wall Street Journal.
Et le gouvernement américain s'intéresse aussi aux nouvelles technologies pour mettre en œuvre sa politique.
Et expulser en masse des immigrés, comme je le disais hier. La police de l'immigration, l'ICE, a désormais accès à un logiciel espion capable de pirater des téléphones et des applis cryptés. L'administration Trump a conclu un contrat avec Paragon Solutions, une société fondée en Israël, précise le journal israélien Haaretz, mais aussi le Guardian, The Independent et El País. Ce logiciel espion peut également être utilisé comme dispositif d'écoute grâce à la manipulation de l'enregistreur du téléphone. Et puis, pour repérer
gérer les migrants aussi. Les autorités utilisent des outils conçus par Palantir, une société connue pour ses outils informatiques d'aide à la décision. D'après Amnesty International, son logiciel Immigration OS automatise un processus déjà très faillible et opaque qui a des antécédents en matière de non-respect des droits humains. Inquiétude partagée par un éditorialiste du Guardian et plus largement pour The Conversation. Les décisions prises aujourd'hui avec Palantir sont susceptibles de façonner l'équilibre entre sécurité et liberté pour les décennies à venir.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, vous retrouverez comme chaque vendredi Mélanie Chalandon et ses invités pour un retour d'Ukraine, la journaliste Clara Marchaud, de retour de la ligne de front, suivie d'une table ronde consacrée à l'avenir de l'ONU, marginalisée sur la scène internationale et soumise à une baisse de moyens et des suppressions de postes, avec les invités Chloé Morel et Alain Leroy, chercheuse et diplomate.